chaque semaine, je vais voir les sites internet des paroisses voisines ou de paroisses amies, d'un nombre de paroisses. D'abord pour savoir ce qui se passe dans le quartier, ce que font mes confrères. Je suppose que les restaurateurs, les cuisiniers font la même chose. Ils vont voir un petit peu ce qui se passe autour. Et j'ai vu que certains, il y en avait un qui proposait ce que j'avais déjà vu d'ailleurs, une messe des curieux. Une messe des curieux, probablement pour attirer de nouveaux paroissiens. Et si vous vous promenez sur les sites des paroisses, vous verrez, il y a bien d'autres concepts encore. Avant, il y avait les messes des jeunes, il y a eu toutes sortes. À Paris, il y a une messe qui prend son temps. Je me dis, ça ne doit pas être pour les Parisiens, ça. Mais il y a toutes sortes de concepts. Je ne peux pas en dire du mal, parce que nous avons nous-mêmes ici une messe des bonbons. Alors, je me rassure en me disant toujours que c'est au moins, c'est en dehors de la liturgie. C'est extra-liturgique, c'est plutôt après la messe. Mais je me disais, c'est quand même curieux, une messe des curieux. La curiosité, c'est une notion qui a été très malmenée, qui est toujours très malmenée, au point que son contraire, le manque de curiosité, c'est ça qui est plutôt banal. Ça n'étonne pas. C'est ce qu'on vient de voir dans l'Évangile. Il y a Jésus qui passe. Il y a un aveugle qui crie, qui l'appelle. On dit, tais-toi. Normalement, on devrait être assez quand même curieux de savoir ce que Jésus va faire. D'ailleurs, on le voit ensuite. Il va lui rendre la vue. Mais c'est quand même étonnant qu'ils ne se posent pas là. Ils n'attendent pas de voir. Ils ne disent pas, Jésus, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Nous allons fêter la Toussaint dans quelques jours. Et la Toussaint, ça veut dire le lendemain, la prière pour tous nos défunts. C'est un temps très, très particulier, très triste, très, très lourd pour beaucoup de personnes. Mais moi, ce qui me fascine toujours, c'est le nombre de personnes qui ne sont pas curieuses de savoir ce qui se passe après, qui ne se posent jamais la question. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe même au moment de la mort? Je me dis, mais ça ne vous intéresse pas? Vous n'êtes pas curieux de le savoir? La curiosité, c'est un mystère. Ne serait-ce que par la réprobation dont elle est frappée, vous savez, on dit toujours, c'est un vilain défaut. Alors que c'est un des principaux moteurs de l'intelligence. Un des principaux moteurs de l'intelligence, peut-être le plus beau désir qui soit, le désir de connaissance et de connaître davantage, c'est ça la curiosité, désir de connaître davantage, un désir de connaissance, pas de possession, et d'ailleurs à la fin du temps de Pâques, c'était au sixième dimanche de Pâques, je vous faisais la distinction justement pour ce qui caractérise le passage de la mort. Qu'est-ce qui caractérise le passage de la mort? Nous renonçons à tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, pour nous ouvrir, pour découvrir la merveille divine, pour découvrir la réalité de Dieu, pour découvrir bien plus gros, bien plus grand, bien plus beau. Que s'est-il passé dans l'histoire ? Pour que la curiosité, qui était au départ une valeur extrêmement positive, puisque étymologiquement ça désigne un soin, curios, cura, un soin, une attention, un intérêt porté à autrui, porté à la vie, porté au monde, cet intérêt, cette attention, soit devenu un défaut, soit considéré comme une indiscrétion, au sens originel de manque de discernement, et même parfois comme une malice. Alors il faut reconnaître à cet égard la méprise, il faut pouvoir le reconnaître, un des plus grands génies de l'histoire, saint Augustin. Ses mépris sur le sujet, il a consacré à la curiosité, il y a un chapitre du livre des Confessions, c'est le chapitre 35 du livre 10e des Confessions qui s'intitule La curiosité, où il écrit « Celui qui a la foi ne saurait être curieux ». Il croit sans voir, il est à jamais libéré de l'esclavage des sens, il est tout entier à la contemplation des choses divines. Vous savez, il y a des phrases malheureuses qui peuvent, même à titre personnel, il y a des phrases malheureuses qui peuvent nous poursuivre pendant des années, voire toute notre vie. Je pense que chacun de nous pourrait dire un certain nombre de phrases qu'il a entendues, surtout de la part de personnes qui nous aiment. Vous savez, ces phrases malheureuses, maladroites, qui nous ont fait un mal ou un tort imprévu. C'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est vrai sur le plan personnel, et c'est vrai sur le plan collectif, et en particulier sur la curiosité. Un autre immense génie, Blaise Pascal, il s'est pareillement fourvoyé en écrivant que, je cite, « la curiosité n'est que vanité. Le plus souvent, on ne veut savoir que pour en parler. » Il faudra attendre, d'une certaine façon, un philosophe Heidegger qui revendiquait une méthodologie au moins athée. Se prononçait pas pour lui, mais il disait « j'utilise une méthodologie athée pour saisir enfin que la curiosité, c'est pas un délassement, c'est pas une récréation. C'est bien plus qu'un trait de caractère, même s'il est effectivement variable suivant les personnes. » Heidegger disait que la curiosité, c'est la conscience au sens plein du mot. C'est l'essence même de la vie, de l'être que nous sommes, jeté dans le monde. C'est ça le concept d'Heidegger, il appelle le Dasein, le jeté dans le monde. Non pas placé devant un certain nombre de possibles, de possibilités, mais véritablement inhérent à ces possibles. Et quand la conscience, c'est-à-dire quand l'être, quand la conscience se rend compte qu'elle est à elle-même ses propres possibles, que nous sommes chacun ce que nous décidons, ce que nous voulons que nous soyons, alors cette conscience, elle devient projet, elle a un avenir, elle a une existence. La curiosité, pour le dire autrement, c'est une sortie de soi. C'est l'énergie des projets. En langage chrétien, on pourrait dire, c'est l'énergie de l'instant présent. Contre l'ego, la suffisance de l'ego qui se suffirait à lui-même, la curiosité, elle a ce que, au Moyen-Âge, au temps de la scolastique, on a voulu la remplacer par la studiosité, la volonté d'apprendre. Mais la curiosité a un avantage sur la studiosité. Elle a une joie en elle-même, une gourmandise, au bon sens du terme. Un des plus beaux textes sur la curiosité, c'est l'évangile des disciples d'Emmaüs. Je vous invite à le reprendre et à le relire en ce sens-là. Vous savez, quand Jésus s'approche, le jour de Pâques, Jésus ressuscité s'approche de ces deux hommes qui repartent tout tristes de Jérusalem vers ce village nommé Emmaüs, et il se montre curieux. Il s'approche d'eux, il dit « De quoi est-ce que vous discutez tout en marchant ?» Ils ne lui disent pas de s'occuper de ses affaires. Ils accueillent sa curiosité, son attention pour eux. Et il lui reproche presque son ignorance en disant « Mais tu es bien le seul étranger vivant à Jérusalem, ignorant les événements de ces jours-ci. » Et quand on lit le texte avec ce regard, on s'aperçoit que ce texte va retourner alors la curiosité vers nous, les lecteurs ou les auditeurs, qui aimerions bien savoir ce que Jésus leur dit alors sur tout ce qui le concerne dans toute l'Écriture. Vraiment, nous aimerions bien savoir le contenu de cet enseignement qui va brûler leur cœur, qui va raviver l'amour de Dieu qui a été répandu par l'Esprit Saint, pour parler comme saint Paul, au point que, à la fin, à la fraction du pain, ils repartent immédiatement, sans compter la fatigue, ils repartent. Ils reprennent la route, pas parce que le Christ les a envoyés. Il n'a pas dit comme à Marie-Madeleine d'aller prévenir leurs frères. Ils sont curieux de savoir ce que les autres savent. Ils sont impatients de le partager. Relisez ce texte qui est une hymne magnifique à la curiosité, à tout ce qui met l'imagination, l'esprit, l'intelligence en mouvement. en appétit, tout ce qui pousse à connaître davantage, à chercher, à rêver, à espérer. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de la curiosité, on l'a remplacée par l'ouverture d'esprit. Encore faut-il que ce soit une ouverture à l'Esprit Saint, pour être capable d'aller au-delà du visible, au-delà de ce qui nous est fourni, d'être capable effectivement, comme Moïse, quand l'ange du Seigneur lui apparaît sur la montagne de Dieu dans ce buisson en feu, qui dit quel étrange spectacle, et qui fait un détour. Je vais faire un détour pour aller voir. Je vais aller voir cette chose extraordinaire. Pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas? C'est ça l'enjeu pour nous aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, aller au-delà des informations qui nous sont envoyées, pré-mâchées, préfabriquées. Aller au-delà de toutes les consultations Internet dont on sait très bien qu'elles nous arrivent sur la base d'algorithmes qui connaissent nos addictions et nos affinités, de tout ce qui emprisonne notre pensée. Quels que soient nos aveuglements, quelles que soient nos limites, le Christ est venu nous en délivrer, nous ouvrir les yeux, l'esprit, le cœur, nous rendre curieux de connaître Dieu. N'êtes-vous pas curieux de voir un jour Dieu de vos yeux, de bienheureux ?